vous le savez, hein, on l'a dit tout à l'heure, deux nouveaux évêques ont été nommés tout récemment, ce sont même des archevêques. Monseigneur Olivier de Germay est nommé archevêque de Lyon et dans notre région, c'est Monseigneur Bertrand Lacombe qui est nommé archevêque d'Auch. Alors, il ne nous en fallait pas plus pour nous poser la question qui vous a sûrement déjà effleuré, comment sont choisis les évêques? Alors, précisons que ceux que je viens de citer l'étaient déjà avant. Ce matin, on va s'intéresser au processus de nomination de ceux qui le deviennent pour la première fois. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Arnaud Ducheron. Bonjour Père.
Bonjour Madame.
Vous êtes prêtre de l'archidiocèse d'Auch, vous êtes l'auteur d'un livre sur notre sujet, il s'intitule « La part faite au gouvernement français dans le processus de nomination des évêques », c'est aux éditions Serre Patrimoine. Alors d'abord peut-être un mot sur votre nouvel archevêque, nous avons appris sa nomination le 22 octobre, depuis quand pensez-vous qu'il était au courant lui ?
Alors, c'est à lui qu'il faudrait poser la question exactement. Probablement était-il au courant dans les 15 jours qui ont précédé la date officielle, mais après, là je vous donne une idée un peu générale, mais il y a aussi du cas par cas, qu'il y a des situations qui peuvent faire que ça prendra plus de temps entre le moment où le candidat accepte et le moment où la date est publiée.
Alors, on entend un léger décalage. Hein. Ce que je n'ai pas dit à ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes en ligne depuis Jakarta, c'est en Indonésie. Vous êtes en mission auprès du nonce apostolique et c'est peut-être l'occasion de nous rappeler ce qu'est un nonce, à quoi il sert. On va voir qu'il a un rôle central dans la nomination des évêques.
Tout à fait, oui. Donc, le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur du pape accrédité auprès de beaucoup de pays dans le monde qui ont des relations bilatérales avec le Saint-Siège. Et une de ses fonctions principales, c'est bien sûr la nomination des évêques, c'est-à-dire la recherche des candidats possibles, et puis l'instruction des dossiers, et puis la présentation des candidats au pape.
Alors, on va y venir à ce processus juste avant, par rapport au nom, s'il y en a un pour chaque pays qui a des relations avec le Saint-Siège, c'est ça ?
Voilà, alors tous les pays qui ont, alors c'est pas tous les pays du monde, mais c'est une très grande majorité qui ont des relations diplomatiques avec le Saint-Siège ont, du coup, par réciprocité, un nonce apostolique. Alors, il n'y a pas toujours un nonce pour un pays. Il peut y avoir un nonce apostolique pour plusieurs pays. Par exemple, nonce apostolique en Inde et nonce apostolique pour l'Inde et le Népal. C'est un petit exemple. Nous, en revanche, l'Indonésie, le nonce est nonce apostolique pour l'Indonésie, mais il est également accrédité auprès de l'ASEAN, qui est l'association des pays du sud-est asiatique. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'évêque à nommer à ce niveau-là, mais c'est plus des relations, comme il y a un nonce auprès de l'Union européenne.
Alors, est-ce qu'on peut reprendre étape par étape ce fameux processus de nomination qui, évidemment, suscite toute notre curiosité ? Alors, la décision finale revient au pape. Les évêques sont nommés par le pape, dit-on. Avant cela, il y a tout un processus. Est-ce que vous pouvez l'énoncer un petit peu par toutes ces étapes ?
Oui, je vais essayer d'être bref. Donc une fois qu'un siège est rendu vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'évêque, soit par démission, c'est-à-dire l'évêque a atteint l'âge de 75 ans, soit parce que malheureusement il est mort, ou un autre cas, l'évêque serait transféré sur un autre siège, eh bien il faut pourvoir un nouvel évêque. On va donc demander aux évêques de la province ecclésiastique, à l'archevêque métropolitain, au conseil des consulteurs du diocèse qui attend un évêque, et puis au collège des chanoines quand il y en a un, au chapitre de la cathédrale quand il y en a un vraiment effectif, on va demander à toutes ces personnes un peu de donner des noms de prêtres ou éventuellement d'évêques qu'ils connaissent, qu'ils pressentiraient correspondre à l'évêque souhaité pour le diocèse donné. Sachant que, alors ça c'est la pratique, je pense, la plus actuelle, mais ce que prévoit également le droit, c'est que normalement, la conférence épiscopale d'un pays ou les évêques de leur propre chef puissent présenter à la nonciature régulièrement des noms de prêtres qu'ils connaissent, qu'ils estiment pouvoir être appelés un jour à l'épiscopat.
Par expérience, pardonnez-moi, Père, c'est quoi que dit le droit canon justement sur ces aptitudes requises pour être un évêque ? C'est quoi les qualités pour être évêque ?
Alors, il faut avoir au moins 35 ans, être prêtre depuis au moins 5 ans et titulaire d'un doctorat ou à défaut d'une licence canonique dans les principales disciplines que sont la théologie, le droit canonique, Voilà, c'est les deux, enfin évidemment la théologie biblique, mais c'était dans la théologie. Donc les principales disciplines canoniques, voilà, donc avoir ou un doctorat ou une licence canonique, c'est-à-dire l'équivalent d'un master, pour parler avec les termes peut-être plus compréhensibles par l'auditoire.
À partir de là, tout est possible.
Et bien à partir de là, il faut ensuite donc avoir brillé, si je puis dire, par quelques qualités pastorales essentiellement, mais aussi de gouvernement, enfin tout un tas de qualités bon, que l'on espère être commune à beaucoup de prêtres, mais ensuite voilà, il y a aussi des critères qui font que certains prêtres seront plus adéquats pour certains sièges que d'autres, et donc là il y a toute une enquête qui est menée et qui permet d'individuer plusieurs prêtres et petit à petit de pouvoir présenter des candidats au Saint-Père.
Vous avez dit il faut avoir brillé. Ça veut dire que c'est une promotion d'être nommé et d'être choisi pour devenir évêque?
Alors non, parce que on n'a pas la vocation à être évêque, on a vocation à être prêtre. Enfin, je veux dire, le Seigneur nous appelle à être prêtre. Ensuite, ce qui est certain, c'est que, alors il ne faut pas chercher, évidemment, qui cherche à être évêque, je pense qu'il sera déçu et décevra. Mais celui qui va se donner de tout son cœur, toute son âme dans son ministère de prêtre, et donc au niveau du bien des âmes, des initiatives pastorales, de l'enseignement, de la conduite du troupeau qui lui est confié. Évidemment, s'il se fait remarquer par le zèle qu'il a, malgré lui, je dirais, bah, il va peut-être finir par être repéré et être dans l'esprit de ceux qui auront à se prononcer, et du coup, son nom sera un jour ou l'autre peut-être donné. Mais évidemment, enfin, je pense et j'espère que les prêtres qui sont proposés à l'épiscopat n'ont pas tout fait pour y arriver. Et je pense que
Bien
d'ailleurs,
sûr.
une personne dit souvent en riant que la mitre, en fait, c'est une couronne d'épines. C'est pour dire que la charge épiscopale est à la fois quelque chose de très beau, mais c'est une union peut-être suprême à la passion du Christ aussi, dans toutes les charges parfois difficiles que cela représente.
Alors, vous nous avez dit, pour reprendre les étapes, hein, qu'il est demandé à la province ecclésiastique et au Collège des moines de donner des noms à qui?
Alors, au nonce apostolique, en fait, c'est le
Aux
nonce
nonces
apostolique qui
apostoliques.
interroge, voilà, qui va mener l'enquête au nom du pape. Évidemment, le pape ne peut pas s'occuper de tous les diocèses du monde personnellement, donc c'est aussi pour ça qu'il y a un de ses représentants dans les pays. Et donc, c'est le nonce apostolique qui va diligenter cette enquête auprès de toutes les personnes et qui, à la fin, tranchera, c'est-à-dire lui, parmi tous les candidats, en retiendra un certain nombre.
Alors, il s'agit de choisir un évêque, c'est pour un diocèse donné, pour un territoire ou pour l'Église plus largement?
Alors les deux, puisqu'un évêque devient successeur des apôtres, donc il entre encore davantage dans la dimension universelle de l'Église, mais on ne peut pas faire fi de réalité d'un diocèse concrètement. Donc il y a d'une part des aptitudes générales qui collent pour être évêque dans l'Église universelle, et il y a évidemment des aspects de la personnalité du prêtre ou de l'évêque choisi qui devront coller, si je puis avec une réalité territoriale d'un diocèse qui sera plus rural, qui sera plus urbain, qui aura telle qualité ou telle difficulté, et où on sent que un caractère ou un autre sera peut-être plus à même de faire face ou de pouvoir développer des charismes selon les diocèses à pourvoir et selon les personnes à nommer.
Et alors, une fois que le nonce a fait son petit tour et a mené son enquête et a des noms, un vivier, en fait, c'est un petit peu prosaïque de dire ça comme ça, un vivier de noms, qu'est-ce qui se passe? Il les donne au pape, c'est lui qui tranche sur quels critères?
Alors, c'est-à-dire qu'avant de donner des noms comme ça au pape, donc va être établi un véritable dossier sur les prêtres retenus. Alors, normalement, il y a ce qu'on appelle la terna, c'est-à-dire
Ah oui.
le nonce va retenir trois noms parmi tous les noms qui ont été donnés. C'est-à-dire que les noms qui auront un peu une majorité de personnes favorables pour elle ou qui semblent avoir les qualités de ce que l'on lit des enquêtes, les qualités les plus à même de correspondre au siège à pourvoir, et bien le nonce va ensuite établir une laterna, donc une liste de trois noms, avec pour chacun donc un dossier très précis. Et c'est ce dossier-là qui est envoyé à Rome pour que le pape puisse réellement choisir. On ne dit pas au pape, c'est celui-là qu'il faut nommer. On présente au pape, on dit voilà, pour ce siège, il y aurait ces trois noms retenus. Avec évidemment, il peut y avoir un ordre proposé, comme il peut ne pas y avoir d'ordre, on peut dire c'est les trois, voilà. Mais donc le pape garde toujours sa liberté. Ça, c'est C'est
Et
certain.
alors, à ce moment-là, quand le pape a fini par en choisir un, le prêtre est informé. Est-ce que ça arrive fréquemment qu'il refuse? Et pour quelle raison? Vous nous avez dit tout à l'heure que la mitre est une couronne d'épines, c'est ça?
Oui, eh bien, alors, une fois que donc effectivement le pape a nommé l'évêque, enfin, du coup, l'expression juste est à l'intention de nommer. Donc, le nonce apostolique va convoquer le prêtre ou l'évêque, dans le cas des nominations dont vous faisiez écho au début de l'émission, et va lui dire, voilà, le Saint-Père vous nomme évêque ou archevêque de tel siège. Voilà, est-ce que vous acceptez? Alors, il est d'usage de refuser difficilement au Saint-Père ce qu'il nous demande. Néanmoins, il peut y avoir des raisons tout à fait objectives qui peuvent faire qu'un prêtre va décliner cette offre. Quoi qu'il en soit, il doit rédiger une lettre dans laquelle il accepte ou il décline la nomination souhaitée par le Saint-Père. Je crois, mais après, moi, je ne suis pas encore exposé à cela, mais je crois que ça arrive. Dans certains dieux, enfin, certains pays surtout, ça peut arriver régulièrement que des prêtres renoncent à être nommés évêques par voilà aussi il peut y avoir aussi l'effroi devant la charge que ça représente aujourd'hui quand on peut se retrouver évêque de
Alors,
diocèse avec peu de vocations, peu de prêtres et quelques problèmes à la clé.
il y a beaucoup de secrets, hein, et de confidentialité qui entourent ce processus. On imagine qu'il faille éviter les fuites, mais pourquoi toute cette confidentialité?
Je pense
Qu'est-ce
que
que
c'est
ça
pour
dit du sens de la nomination?
conserver la liberté de toutes les parties, c'est-à-dire à la fois que le pape soit totalement libre de nommer qui il veut. Il peut arriver, alors c'est pour la France peut-être pas, mais dans certains cas où il y a des processus, parce que là je vous ai fait le schéma général, mais il y a un schéma complexe en parallèle qui est pour les pays dits de mission. Mais le pape peut très bien dire, parmi les candidats que vous me présentez, moi je trouve qu'il n'y en a aucun qui correspond à ce que j'attends pour ce diocèse. Donc, je vous prie de refaire une nouvelle enquête. Donc, si on avait déjà ébruité qu'il y avait tel prêtre qui était pressenti ou autre, la liberté est aussi faussée dès qu'on commence à faire courir des noms. Et également vis-à-vis du prêtre ou de l'évêque pressenti, si son nom commence à courir de tous les côtés. Enfin, voilà, je pense que le secret, c'est aussi pour la grande liberté et que
Et de
si laisser le
côté.
Saint-Esprit
Et
choisir
alors
et inspirer
la
les.
parfaite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques, c'est le titre de votre livre aux éditions Serre Patrimoine. Vous posez la question de la part de la France laïque dans le rôle, dans quel rôle elle peut avoir dans la nomination, ça peut sembler étonnant. Et pourtant, vous y avez consacré un livre. C'est quoi son rôle?
Eh bien voilà, c'est une particularité française parce que pour le coup, aucun autre pays n'a les mêmes
Ah
prérogatives
oui.
que la France dans le monde. Alors ça fait suite à tout un tas d'échanges diplomatiques, de ruptures et de reprises de relations diplomatiques. Pour tout savoir, j'invite les auditeurs à lire ma thèse, c'est un bon livre.
Bien sûr.
Mais pour faire simple, donc le gouvernement français a demandé à avoir ce qui s'appelle le droit de regard pour toutes les nominations d'évêques en France hors diocèse concordataire. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Père a le désir de nommer un évêque et qu'il a déjà choisi son candidat, eh bien le nom du prêtre nommé est transmis aux autorités françaises, alors via le Quai d'Orsay puis le ministère de l'Intérieur, et ils ont un délai d'un mois maximum pour diligenter une enquête de ce qu'on appelle une enquête de politique générale, c'est-à-dire de s'assurer que le prêtre ou l'évêque qui serait de nouveau nommé ne présente pas de caractère qui pourrait venir à troubler l'ordre public.
C'est un droit de regard ou un droit de
Évidemment,
veto?
alors droit de regard parce que le Saint-Siège reste totalement libre d'accepter ou de décliner les remarques que pourrait formuler le Saint-Siège. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement français disait non, nous ne sommes pas favorables à cette nomination, le pape peut très bien dire, mais moi j'y suis, enfin, je maintiens. Alors après, tout ça, ce sont des discussions diplomatiques qui peuvent parfois aussi se régler avant d'arriver à ce terme d'une opposition claire. Il peut y avoir des discussions en amont qui sont du coup pas officielles et pas qu'on peut pas trouver en archive, mais qui peuvent avoir eu lieu dans l'histoire. Voilà,
Eh
de
ben, merci beaucoup.
discussion.
J'invite tous ceux qui nous écoutent à se plonger dans votre livre passionnant, La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques. C'est aux éditions Serre Patrimoine. Alors, on avait eu cet échange à l'occasion de l'installation de Mgr Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. Elle devrait avoir lieu normalement le dimanche 22 novembre. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Père, d'avoir été en ligne
Merci
avec
à
nous
vous.
ce matin depuis le bout du monde.